Carrefour.
Quand vous me dites, les JO de Paris 2024, ça va être énorme! Et pour une fois, toute la France sera derrière Paris! Eh bien, je vous réponds que pour célébrer les Jeux Olympiques de Paris 2024, il y a une collection exclusive chez Carrefour. Comme par exemple, le ballon de foot Paris 2024 à 9,99€ seulement. Alors? Ah ben ça, c'est énorme! Et c'est dans vos hypermarchés Carrefour.
Carrefour, partenaire premium des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. Jusqu'à épuisement des stocks, produits officiels sous licence, détails sur carrefour.fr.
Vous écoutez
RMC. RMC, midi 15h. Estelle Midi.
Estelle Denis.
On est de retour dans Estelle Midi sur RMC, RMC Story, canal 23 de la TNT. On est ensemble jusqu'à 15h avec Rémi Barré, le journaliste Daniel Riolo, le journaliste Thierry Moreau, le professeur à Sciences Po et HEC, sociologue Julien Damon, avec vous bien sûr au 32-16 pour réagir à tous nos débats du jour, avec notamment dans un instant l'enquête de 60 millions de consommateurs sur les services publics. Ça ne marche pas, les services publics. Faut-il remettre de l'humain dans ces services? On a vos avis sur l'appli RMC. À 13h30, ce sera le meilleur du jour sur RMC, le zapping. 13h45, la Minute Conso avec Stéphane Pedrazzi. On peut désormais changer de nom, c'est très facile. 40 000 Français ont changé de nom depuis 6 mois. Stéphane nous expliquera comment ça se passe pour eux. À 14h, plus d'un salarié sur 3 serait prêt à diminuer son salaire en échange de la semaine de 4 jours. Êtes-vous prêt à travailler moins pour gagner moins? 14h30, ce sera RMC s'engage pour vous avec une enquête sur des fromages potentiellement contaminés à la liste. Il y a 5 cas graves ont été identifiés. Et puis on terminera avec les immanquables, Rémi.
Et on parlera notamment de la baisse du chômage et de la hausse du nombre de demandes d'asile en France. On a atteint quasiment un record en 2022.
RMC Estelle Midi.
13h03 sur RMC, on va tout de suite s'intéresser à l'enquête du jour. C'est celle de 60 millions de consommateurs sur les services publics. Et c'est édifiant, près de 70% des appels téléphoniques n'aboutissent pas. Les réponses données sont souvent incomplètes ou nébuleuses. Conséquence, Rémi, une majorité de Français se sentent désormais démunis face à l'administration.
Mais rien ne va ou si peu. Dans le cadre de cette enquête menée par l'association 60 millions de consommateurs, tu l'as dit Estelle, en partenariat, c'est intéressant, avec la Défenseure des droits, 1532 appels ont été passés par trois types d'usagers pour des demandes de renseignements ou des démarches. Il y avait une personne sans internet, une autre ayant internet mais maîtrisant mal le français, une personne âgée avec internet ainsi qu'un appelant lambda pour vérifier d'éventuelles différences de traitement. Le prix du pire répondant est décerné à l'assurance maladie. Sur 302 appels passés pour connaître...
Sécu, tu veux dire ?
Oui. Sur 302 appels passés pour connaître les formalités en vue d'obtenir ou renouveler une carte vitale. Voilà. Ma carte vitale n'est plus valable, je vous appelle, j'essaie de vous appeler en tout cas.
Mais s'ils ont appelé à 16h32, c'est déjà mort. Hein.
Non, mais attends,
Daniel !
72% des appels passés pour cette simple démarche n'ont pas abouti. Ah. Et encore.
Ça veut dire quoi, donc pas abouti ? Il n'y a personne ?
Non, ça n'a jamais décroché.
Parce qu'ils sont surbookés.
Et encore. Mais attends, c'est pas fini.
Ah bon ?
Quand ça décroche.
J'étais en pause.
Quand ça décroche.
Ça raccroche.
Seuls 22% des appels ont reçu une réponse acceptable. Et moins de 5% des réponses précises. Même chose ou presque à la caisse des retraites, à la caisse d'allocation familiale, sur 408 appels, personne n'a jamais décroché dans la moitié des cas.
Oui.
Ici encore, quand quelqu'un répond, les réponses sont insuffisantes ou renvoient à Internet. Seul Pôle emploi s'en tire mieux, avec 84% des appels ayant abouti, faut même le signaler, mais toujours et trop souvent avec des réponses imprécises.
Alors, est-ce qu'on doit remettre de l'humain dans ces services publics? Parce qu'on l'a bien compris, Rémi, il y a quand même un problème, c'est Internet.
Il y en a de l'humain, c'est juste ils étaient en pause quand ils ont appelé.
Non, ils sont pas en pause. Daniel. Mais non, mais c'est pas ça, mais c'est qu'il n'y a pas, il y a plus assez d'humains.
Honnêtement, moi, je sais pas quel âge vous avez, mais l'histoire de la sécurité ne répond pas. J'étais petit que déjà, j'entendais tout le temps parler de ça, moi.
C'est une plaisanterie de Coluche, ça.
À chaque fois, j'entendais que la Sécu, ça répondait jamais.
Sauf Daniel, c'est qu'aujourd'hui, quel que soit le service public vers lequel tu te diriges, lorsque tu veux aller au guichet, on te renvoie, on te dit non, les guichets sont soit fermés, soit les horaires sont inadaptés. Ne venez pas au guichet, allez sur Internet ou quand tu n'as pas accès à Internet ou que tu n'y arrives pas, on te renvoie vers un numéro.
À l'époque, il n'y avait pas Internet.
Oui, mais le problème, c'est que là, c'est des particuliers. Avec des profils spéciaux qu'a choisi 60 millions de consommateurs, ça n'a pas été fait au hasard. C'est une personne âgée qui maîtrise mal Internet, un Français qui a Internet, mais qui maîtrise mal le français, et quelqu'un qui n'a pas Internet. Et dans ces cas-là, clairement, là, il n'y a pas de réponse. Il n'y a pas de réponse.
C'est compliqué. Et il y a aussi les fois où en fait, tu prends un rendez-vous téléphonique, il t'appelle, et c'est en numéro masqué, et tu réponds, et il n'y a personne.
Mais ce que ne dit pas l'étude que vient d'évoquer Rémi, c'est si c'est parce qu'il manque du personnel, est-ce que le personnel travaille mal,
Il n'y a personne. Donc ça manque de personnel.
Non, ça ne le dit pas. Je ne suis pas convaincu que c'est ça que ça veut dire. Ça peut être aussi parce qu'il bosse mal.
Ah d'accord, donc t'imagines qu'il y a quelqu'un.
Je n'en sais rien, c'est pas dit.
Attends, excuse-moi, Daniel. Si quelqu'un dont c'est le métier de répondre au téléphone, et le téléphone sonne et ne répond pas, c'est un problème. Tu penses bien que s'ils répondent pas, c'est qu'ils sont pas là.
Et il y a autre chose,
c'est mal raccroché.
Je termine juste là-dessus, un petit point. Non, mais il y a autre chose. Même quand ça finit par décrocher, et on l'a vu dans une.
On n'a pas la bonne réponse.
Il n'y a pas la bonne réponse.
Mais oui, c'est ça le problème.
Donc là, ça veut dire mal travailler,
d'accord,
ça.
Est-ce que je peux reposer ma question à Thierry Moreau qui n'a toujours pas répondu. Merci. Thierry, est-ce qu'il faut remettre de l'humain là-dedans quand même?
Bien évidemment,
du bon humain.
En 95, Jacques Chirac avait théorisé la fracture sociale. Je pense qu'aujourd'hui, on a une fracture citoyenne. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a une rupture d'égalité du citoyen devant l'administration, suivant qu'on est dans un hypercentre ou dans une périphérie ou dans une campagne reculée, suivant qu'on a de l'argent ou pas d'argent, parce que ça aussi.
Personne ne sait qui appelle quand vous appelez, que vous avez de l'argent ou pas, ça change rien.
Par exemple, pour avoir un rendez-vous dans un hôpital, quand on a plus d'argent, évidemment, on peut s'adresser à un hôpital où on est tout de suite pris par rapport à un autre où on aura plus de mal. Mais si, bien sûr. Et la fracture numérique qui se réduit, mais paradoxalement, et on en parlait tout à l'heure avec Julien, qui est de plus en plus importante pour ceux qui sont exclus de cette fracture numérique. Je pense qu'aujourd'hui, il y a un vrai problème. Moi, par exemple, ça m'est arrivé, je suis en train, par exemple, mon fils qui a 27 ans essaie de refaire sa carte vitale. Ça fait 6 mois qu'on n'y arrive pas. Ah bon ? On n'arrive pas à voir quelqu'un, on n'arrive pas à savoir à qui s'adresser.
Dans 2 semaines avec ma
fille. Il manque toujours un papier. Ça fait 6 mois que ça dure, on n'a toujours pas de carte vitale. Autre exemple.
Et ça, c'est peut-être parce que c'est défaillant, ça ne veut pas forcément dire que ça manque de l'humain.
Non, mais le problème, c'est qu'à chaque fois, tu passes des heures et des heures au téléphone et tu n'as pas le bon interlocuteur parce qu'on te renvoie sur un autre service.
Donc c'est mal organisé.
Donc, une défaillance.
C'est pas parce qu'il manque de l'humain.
Je vais te donner un autre exemple. Suite au décès de ma mère, on m'a réclamé un impôt. Les impôts de Nantes et les impôts de Mantes, parce qu'elle était dans la région de Nantes et moi j'habite à Mantes, m'ont réclamé la même somme qui était injustifiée parce qu'il y avait une erreur entre Mantes et Nantes. Et pour débrouiller ça, j'ai mis des jours et des jours avant de pouvoir avoir quelqu'un au téléphone qui puisse me donner une vraie réponse.
Mais c'est vrai, ça vous a...
On a un problème aujourd'hui avec, parce que c'est bien la modernisation, c'est bien la numérisation, mais il faut de l'humain, absolument. Et il faut, aujourd'hui, vous savez bien qu'aujourd'hui, il y a un retour dans les banques, par exemple. Les gens, ils préfèrent aujourd'hui avoir un banquier à qui ils parlent, qu'ils connaissent votre dossier, plutôt que d'avoir une plateforme qui vous envoie je sais pas où. Pareil pour les assurances.
Parce qu'il y a plus de gens qui veulent faire le métier de banquier.
Il faut remettre de l'humain dans cette administration.
Ils veulent pas y aller. Les humains ne veulent pas y aller.
Comme mon père est décédé, j'ai eu un problème avec les impôts et on m'a dit mais votre père n'est pas allé chercher sa lettre. Je dis oui, parce qu'il était mort, donc en fait il pouvait pas. Mais c'est pas un ordinateur qui m'a dit ça, c'est quelqu'un. Et j'ai eu beau expliquer que comme il était mort, il pouvait pas aller chercher sa lettre, mais en fait vous devenez fou. Bon après j'ai réussi à régler le problème, mais en fait il y avait quand même un humain.
Apporte pas la bonne réponse.
Mais donc c'est pas en remettant de l'humain qu'on va régler ça.
Et combien
ça,
de temps
en fait
vous avez mis avant d'avoir quelqu'un au téléphone?
J'ai mis un petit mois, je ne peux pas pouvoir à peu près tous les jours.
Un mois pour joindre quelqu'un au téléphone pour un problème administratif.
Mais parce qu'ils devaient être débordés, mais je leur jette pas la pierre. J'imagine que les impôts, ils sont débordés, je peux pas
croire
que...
Avec le prélèvement à la source, normalement,
les impôts, ça marche bien. Pour le coup, moi, j'ai jamais de problème, ils me répondent tout le temps, c'est très bien.
Et ça dépend d'où tu appelles, mais en fait, le truc, c'est que c'est pas forcément l'humain qui va régler ça. C'est peut-être de
l'organisation.
Et
n'oublie pas qu'il y a plein de gens qui veulent plus faire ces métiers. Il y a plein de gens qui veulent plus faire ces métiers pour revenir sur ce que tu disais des banques.
C'est pas très excitant.
Mais il n'y a plus rien d'excitant, de toute façon. Il n'y a plus rien. Tous les métiers sont pénibles. Il n'y a plus rien d'excitant. Mais je vous dis, on en revient. En fait, il faudrait faire un mono-débat. On fait une mono-émission. C'est le rapport au travail. Plus personne, de toute façon, ne veut bosser. Tout est nul et ça fait chier tout le monde. Donc, qu'on s'emmerde pas, qu'on donne un salaire universel et puis tout le monde est en vacances. Voilà, comme ça, on sera bien. On sera tranquille.
Quand t'es petit, tu rêves pas de bosser aux impôts. Enfin, je veux dire, après, ça peut devenir un rêve, mais au départ.
Tout le monde est policier et pompier, alors. Hein, parce que quand on est gamin, on va être policier ou pompier.
Non, journaliste.
Ou drag queen.
Bon, ça, écoutez, notre invité.
Notre invité sur ce débat,
c'est Lionel Mauguin, qui est journaliste au magazine 60 millions de consommateurs et qu'on a régulièrement dans Estelle Midi. On est ravis. Bonjour, Lionel.
Bonjour, Estelle.
Bonjour. Alors, en tout cas, Lionel, votre enquête a fait énormément de bruit partout, quoi, voilà.
C'est les contents sur les services déjà, publics. Lionel.
Lionel, on a bien compris, ça dysfonctionne, ça ne va pas. Est-ce que le problème, c'est l'humain ou est-ce que le problème, c'est Internet sur les services publics?
Bah, c'est un peu les deux. C'est-à-dire que, effectivement, de plus en plus, comme ça vient d'être dit, on a besoin d'expliquer une situation parfois compliquée à quelqu'un au bout du fil ou physiquement. Donc, cette enquête révèle que on n'a pas de personne au bout du fil ou physiquement quand on essaye de régler un problème. Nous, la demande, elle était assez simple. Sur la caisse d'allocation familiale, on demandait une aide au logement suite à un déménagement.
D'accord.
Et effectivement, dans plus de la moitié des cas, on n'a personne au téléphone. Et quand on dit personne, on a essayé trois fois à chaque fois. 5 minutes, et donc plus de la moitié des appels étaient inaboutis. C'est encore pire à l'assurance maladie pour refaire une carte vitale. Là, c'est 3/4 des appels qui sont inaboutis. Donc,
mais parce qu'il n'y a personne ou parce que les gens ne répondent pas?
Il manque de personnel. On a soumis nos résultats aux organismes concernés, comme on fait à chaque fois, pour demander des explications. Ils nous disent que d'abord, les gens, il y a une explosion des demandes par téléphone depuis la pandémie. Mm-hmm. Donc les gens veulent parler à quelqu'un,
bien sûr,
avoir de l'humain, effectivement, au bout du fil ou physiquement. Et puis, deuxièmement, ils ont du mal à recruter des téléopérateurs, nous disent-ils. Et donc, ça explique en partie le fait que ça ne répond pas. Et malheureusement, quand ça répond, soit on est renvoyé sur Internet, ce qui est là
de... Oui, c'est un camoulox, là, oui, d'accord.
Soit la réponse est incomplète, mais il nous est, et c'est peut-être la bonne nouvelle, on a parfois eu des réponses complètes, circonstanciées et satisfaisantes. Donc ça peut exister, mais il faut avoir beaucoup de chance pour tomber sur le bon opérateur.
Ouais, mais là, mine de rien, allusion est faite à la compétence des gens dans certains métiers.
Mais
les gars occupent
le
des emplois et puis après, on s'aperçoit souvent que ça peut être des bons à rien aussi. Hein.
Oui, non, mais c'est pas ça. Non, mais Daniel,
non, mais il y en a. Il y a plein de services. Tu vois que le mec est pas.
Ou mais la fille, ou la femme, mais
pas. Il y en a aussi chez les journalistes des bons à rien.
Exactement, j'allais te le dire. Il y en a partout.
Bien sûr, Thierry, et alors?
Bien
sûr. T'as raison. Alors, ça peut aussi être un problème de compétence. Il faut pas sans arrêt chouiner.
Oui, Julien Damon, qui est toujours plein de bon sens. Julien Damon, on fait quoi pour ces services publics?
Alors, avant de parler des services publics, je voudrais dire que le problème se pose aussi dans les entreprises privées. Je pense qu'on aurait exactement la même enquête, avec des chiffres peut-être un rien différents, sur les contacts téléphoniques avec l'entreprise qui vous loue une box qui fonctionne plus ou moins bien, avec une entreprise qui vous abonne à tel ou tel canal de diffusion d'informations. Donc, ça n'est pas qu'un sujet de service public qu'il faut bien montrer sûr. Du droit comme étant des vieux machins. C'est un sujet général de dématérialisation qui fait que grâce à la dématérialisation, nous avons des gains de productivité formidables. Et la plupart d'entre nous, on est super contents parce qu'on n'a plus de temps à perdre à justement aller au guichet, à faire des courriers compliqués ou à perdre du temps au téléphone. Parce que c'est ça les quatre voies pour avoir un contact. Hein. Le guichet, le courrier, le téléphone et maintenant Internet. Donc Internet, c'est formidable. C'est vraiment ce qui permet une relation de service de meilleure qualité pour la plupart des gens. Il est tout à fait exact qu'il y a cette fracture numérique. On avait parlé un peu avec Thierry. Cette fracture numérique, elle se réduit chaque jour. Il y a de moins en moins de gens qui ne sont pas équipés, de moins en moins de gens qui ne savent pas utiliser, de moins en moins de gens qui vivent dans des zones blanches. Ceci dit, quand on est du mauvais côté du fossé numérique, c'est de pire en pire. Et il est vrai que services publics et services privés...
Alors, prenons-en à servir d'Internet, en fait.
Ah ben bien sûr, mais c'est quand même quelque chose d'absolument capital. Vous parliez des aides au logement. Les aides au logement, leur demande pour les étudiants qui demandent des aides au logement, c'est intégralement dématérialisé. Donc après, si on doit passer un coup de fil, c'est sûr que ça se perd dans des canaux un peu étranges. Je terminerai pour dire une chose, c'est qu'il y a des entreprises privées qui sont différentes. Il y a aussi des caisses de sécurité sociale qui sont différentes. Si vous cherchez à avoir au téléphone la caisse d'allocation familiale de Seine-Saint-Denis, c'est beaucoup plus compliqué que d'avoir au téléphone la caisse d'allocation familiale de Vannes. De même, pour une caisse de sécurité sociale d'assurance maladie, c'est plus compliqué d'avoir
celle de Paris.
Oui, il y a une pression absolument considérable. Alors, il se trouve que les prestations aujourd'hui logement ont été réformées, ça pose plein de problèmes et donc les gens sont un peu inquiets et appellent. Mais pour terminer sur ce dossier, il faut de l'investissement dans le numérique et naturellement de l'investissement dans l'humain.
On va remercier Lionel Mauguin, journaliste au magazine 60 millions de consommateurs. C'est ce magazine qui sort cette enquête sur les services publics. Vous êtes très nombreux à nous faire part de vos désagréments avec les services publics. On a Thomas en ligne qui nous appelle de Montrouge. Bonjour Thomas.
Bonjour Estelle, bonjour à tous.
Bonjour. Alors vous avez un petit souci avec les services publics, hein, Thomas.
Oui, tout à fait. Donc, pour vous expliquer un peu mon cas, donc il y a 2 ans, j'ai décidé de changer de prénom.
D'accord. Donc bah, Thomas, c'est bien.
De prénom.
De prénom, tout à fait. Donc, ça rejoint aussi le sujet dont vous allez parler, mais de nom, je pense.
Ouais. Exactement.
Donc, j'ai fait une demande de changement de prénom qui a été validée, et donc par la suite, j'ai mis à jour tous les documents. Donc j'ai appelé la sécurité sociale, donc j'ai pas de problème avec le numérique, donc j'ai tout fait par application. On m'a demandé d'envoyer les documents nécessaires de la mairie, comme quoi j'ai changé de prénom, j'envoie tout ça.
Ouais.
Et donc quelques temps plus tard, tout a bien fonctionné, je reçois ma carte vitale, sauf qu'elle est encore à mon ancien prénom.
Ah, c'est embêtant, oui.
Voilà, donc au niveau numérique, ça a fonctionné, mais bon, j'ai reçu la mauvaise carte. Donc j'appelle la personne que je réussis à voir. Donc après un peu d'attente, mais je réussis à voir la personne. Je lui réexplique mon cas. Je lui renvoie les documents que j'ai envoyés par le numérique. Et à la suite de ça, je reçois une nouvelle carte vitale avec encore mon ancien prénom.
Ah, c'est embêtant.
Voilà, donc 3 cartes vitales à mon ancien prénom. Ça fonctionne pas, je rappelle. On me dit, il y a un souci, il faut aussi envoyer le RIB parce que votre RIB a pas été mis à jour aussi, donc je renvoie mon RIB. On me renvoie encore une 4e carte vitale avec mon ancien prénom.
On pourrait faire une collection, là.
Voilà. Non, mais ça rend fou.
Mais pourquoi vous avez voulu changer de prénom?
Mais ça, c'est pas la question.
C'est un choix de vie, c'est la vie qui a fait que j'ai voulu changer. Puis,
pas de souci,
voilà,
toi.
Je me sentais mieux avec le prénom que j'utilisais assez souvent. Voilà, un prénom
d'accord.
plus français, voilà.
Mais pour Thomas.
Français que Thomas.
Attends, mais laisse. Thomas.
Là, c'est son nouveau prénom.
Juste, est-ce qu'à un moment, vous avez réussi à avoir votre carte vitale avec votre nouveau prénom?
Toujours pas après 2 ans.
Mais vous plaisantez.
Mais oui.
Non.
Et, est-ce que votre ancien prénom, c'est Vital?
Alors non, mais c'est pas Vital. Non,
bah, et la carte vitale, c'est un.
Mais vous allez
il
faire
a raison,
quoi, Thomas?
C'est un enfer. C'est un enfer.
Oui. Vous allez faire quoi, Thomas?
J'ai renvoyé encore les documents. Alors, ils ont remis à jour, sauf qu'ils ont remis à jour avec mon ancien prénom.
Bon, et on comprend bien, Thomas, qu'il y a
ce qui est terrible, Thomas, problème. C'est que ce soit par numérique ou que vous vous déplaciez au guichet ou que vous envoyez des courriers, le problème est dans les circuits de production des cartes vitales. Il doit y avoir un mauvais lien qui se fait entre l'état civil qui est transformé et votre numéro de sécurité sociale qui, lui, n'est pas rattaché à votre nouveau prénom.
Moi, j'ai un conseil, Thomas. Vous écrivez à RMC pour vous, à rmc.fr. Je peux vous dire qu'Amélie Rosic, elle va vous avoir une carte vitale avec votre bon prénom. Ça va prendre 3 heures, ça va être vite réglé. Je vous le conseille, Thomas, elle est très efficace. Vraiment, allez-y, RMC pour vous, @rmc.fr. Merci, Thomas, en tout cas, de nous avoir raconté votre cas qui est complexe. Et vous avez plein d'autres cas sur.
Sarah, sur Direct Studio, l'application RMC, Cass nous dit, c'est son pseudo, pareil pour ma carte vitale demandée il y a 4 mois par Internet, toujours rien. Voilà. Moi, je l'ai bien fait sur le site Amélie. Toutes me disait que c'était OK et j'attends toujours. Jean-Louis qui nous dit bonjour, il me semble que ces fonctionnaires sont payés par nos impôts que cette catégorie a l'audace de contester la réforme des retraites. Il faut vraiment
tous les débats là.
Qu'à la tête Rémi. De ce pays, on ouvre les yeux et il faut agir très vite.
Oui, et là, monsieur. On touche en fait à un point très précis, l'efficacité du service public et l'évaluation de l'efficacité du service public.
Et le consentement à l'impôt qui va aller
parce
avec.
Que le type
parce que quand tu vois que plus rien ne marche, ton consentement à l'impôt, en fait, il en prend un coup quand même.
Mais en fait, le type, quand il a 10 dossiers sur son bureau, il devrait avoir une prime s'il arrive à régler les 10 dossiers en un certain temps.
Oui,
avec
mais il y a aussi un
c'est le cas. C'est le type qui est derrière.
On râle quand ça marche pas, mais il y a plein de trucs qui marchent aussi, il faut le dire.
Oui,
non, bah, oui,
sauf
mais...
que quand le type, ça n'avance pas, et il se retrouve avec 14 cartes vitales avec un ancien prénom, excusez-moi.
Avant, il y a 10 ans, il voulait un extrait de naissance, ça mettait, 10 jours pour recevoir l'extrait de naissance. Aujourd'hui, en 2 heures, c'est réglé, même pas. En 5 minutes, c'est réglé. Donc, tu as aussi des avancées, quand même.
Mais il y a aussi des cas particuliers qui sont de plus en plus complexes. Et comme l'expliquait notre ami de.
On va pas mettre un agent du service public derrière chaque Français. Enfin, tu peux pas.
Non, mais il faut qu'il soit efficace. Moi, je veux pas qu'il y en ait 50, je veux qu'il y en ait un.
Mais il y en a plein qui sont efficaces. Il faut pas tomber sur le mauvais, c'est tout. Mais il y a aussi des gens qui sont efficaces.
On a beaucoup d'exemples, quand même, au téléphone de gens qui sont pas efficaces.
C'est peut-être la même personne à chaque fois.
D'une part, à mon avis, ça doit être à peu près la même chose vis-à-vis de Orange ou autre, donc des entreprises privées. Et deuxième chose, nous sommes assez jeunes autour de cette table pour tous avoir connu la période où la carte vitale n'existait pas. Oui. Tout simplement pour dire que le monde s'est considérablement amélioré, le service s'est considérablement amélioré, et la détérioration pour certains cas nous exaspère davantage.
Merci.
C'est parce que...
Merci Julien.
Voilà, quand même.
Alors, pour essayer d'y voir plus clair, nous avons Cécilia qui nous appelle d'Orléans, et Cécilia, elle est agent administratif aux impôts. Bonjour Cécilia.
Bonjour Estelle. Bonjour. Bonjour tout le monde.
Alors Cécilia, expliquez-nous pourquoi ça ne répond pas quand on appelle.
Eh ben le souci c'est que c'est pas compliqué, on est en manque de personnel, mais ben c'est vraiment, c'est cruel quoi. Là ça se fait ressentir de plus en plus. Alors Daniel qui dit on fait rien, en gros vous dites que le cliché du fonctionnaire pur et dur, on est à la pause café, ça faut arrêter au bout d'un moment. Là on a plus d'accord.
Ah non, moi j'ai dit aux impôts ça marchait très bien si vous avez entendu.
Oui, c'est vrai. Aux impôts, je suis d'accord, mais vous parlez quand même, enfin, on est mis dans le même panier, hein, vous n'êtes pas le seul, hein, tout le monde.
Ah non, moi, j'ai pas mis dans le même panier, j'ai fait une différence de panier.
Ouais, mais bon, voilà, on entend ça à tout bout de champ, enfin, au bout d'un moment, faut arrêter. C'est juste que, alors, d'un côté, on supprime des postes, mais c'est à foison, hein, on n'arrête pas. Et de l'autre, on recrute du contractuel. Voilà ce qui se passe. Oui, donc les contractuels, ils restent là des petites périodes, ils ont des petites missions, voilà.
Et donc ils s'en foutent.
Et donc ils s'en foutent, c'est ça. Donc c'est, je parlais d'un problème de compétences aussi, d'envie de travailler.
Et ça coûte plus cher le contractuel.
Mais donc ça, c'est un problème de l'État en fait. C'est ce qui ne va pas, c'est la tête de l'État. C'est que l'argent est mal utilisé en fait.
Mais bien sûr.
Voilà.
Et je ne sais pas si je peux dire ça à l'antenne. Mais on a des budgets, pour tout et rien. Il y a un mois de sang, on s'est fait livrer des plantes. Pour que le centre soit plus joli. Non mais il faut arrêter au bout d'un moment. Les gens ils viennent pas pour regarder des plantes en fait. Donc enfin moi je trouve ça on met l'argent mais on le gaspille, c'est affolant. Moi je voilà, à mon niveau je le vois déjà, alors j'imagine même pas plus haut, c'est affolant quoi.
Et Cécilia, comment ça se passe au guichet? Est-ce qu'il y a de plus en plus de tensions avec les usagers justement de ces services publics ou pas du tout, ils comprennent qu'effectivement vous êtes débordés?
Ça dépend. Moi, ça fait que 2 ans que je suis au guichet, donc j'ai pas assez de recul pour vous dire vraiment. Mais ce qu'il y a en fait, c'est que les gens montent plus vite en tension. C'est-à-dire qu'avant, bon, ça, c'était un peu plus crescendo, ils comprenaient un peu. Maintenant, c'est direct, ils arrivent. Voilà, on se fait agresser. C'est ça, où il y a aussi des très gentils.
Absolument.
Hein. On a des personnes très sympas. Tout dépend comment on réagit aussi avec eux. Si les gens arrivent, s'ils voient quelqu'un de fermé, forcément, ils sont pas agréables. Mais en règle générale, je veux dire, je me plains pas, mais on fait de plus en plus de signalements, parce qu'il faut savoir que quand vous venez nous voir, enfin, les contribuables viennent nous voir, qu'ils nous agressent, ça remonte à la direction, et après, ça peut aller beaucoup plus loin.
Mais ça, c'est normal, et vous faites bien de le rappeler, Cécilia.
Je le signale, parce que voilà, faut le savoir.
Alors après, il y a un autre souci, vraiment, pour les impôts, c'est que, c'est même pas que c'est compliqué de les avoir, c'est que souvent, vous trouvez pas de numéro, quoi. Vous trouvez des mails qui sont impersonnels, etc. Et alors pour trouver le numéro, tu sais, c'est comme pour trouver le service client d'une grosse boîte, quoi. C'est impossible et c'est de plus en plus dur de trouver les numéros. Donc en fait, les gens ils abandonnent et s'ils abandonnent,
évidemment ça fait des échecs. Moi je retiens quand même dans cet excellent témoignage de Cécilia aussi le rapport aux contribuables qui s'énerve de plus en plus, qui ne supporte plus l'administration. Ça aussi, il faut le souligner.
C'est pour ça qu'il y a des agents sécurité maintenant à certains guichets, à la CAF, etc.
C'est complètement dingue.
Prendre des contribuables, c'est pareil à l'hôpital où vous prenez des médecins qui sont pas affiliés à l'hôpital mais qui font plusieurs remplacements, etc. C'est que effectivement vous avez pas d'attachement à l'entreprise.
Ça coûte plus cher à la collectivité.
Oui, et puis en plus pas de vous pouvez pas avancer, avoir de l'avancement. Absolument. Avant vous étiez dans une entreprise et vous espériez monter les échelons, et là il y a pas de montée d'échelons quand vous êtes effectivement à mi-temps dans les services et que vous changez de service, quoi. Donc ça aussi c'est un problème. Il faudrait peut-être mieux former les contribuables, pas forcément en rajouter les contribuables, les agents des services publics, pas en rajouter mais mieux les former, Julien.
Il y a la formation, il y a l'organisation, il y a la capacité aussi des systèmes d'information à réagir, non pas seulement aux demandes des usagers mais des agents, hein. Je voudrais dire un petit mot sur France Service, ça vous dit peut-être rien, mais c'est la grande réforme qui a voulu être mise en place par ce gouvernement dans la suite du mouvement des Gilets jaunes. Qu'est-ce que France Service? C'est l'idée que, constatant la déshumanisation des services, a été créé des guichets uniques, des guichets uniques à l'échelle de chaque canton. Nous sommes plutôt urbains ici, donc on le voit pas trop.
Non, mais
on
n'a
pas trop de problèmes.
Moi, je m'en sers.
Mais pour les gens qui sont plutôt dans la mouise, vous avez à l'échelle des cantons un guichet unique qui, en théorie, ça peut fonctionner à certains endroits, ça peut mal fonctionner à d'autres, vous aide dans un dédale administratif qui, numérique ou non, est
le problème, c'est qu'à ce moment-là, tu as quelqu'un qui est polyvalent dans ce, et qui n'a pas la réponse à ton problème.
C'est un dilemme absolu. Voilà. On demande à des gens de maîtriser.
Sur mon histoire de carte vitale, ça ne fonctionne pas.
Non, mais toute la législation. Oui, va te renvoyer vers la CEPAM immédiatement.
D'accord. On termine avec des messages, Rémi, et le résultat de notre sondage.
Beaucoup de messages. Ce message de Sandrine, par exemple, qui nous dit pour la sécurité sociale, c'est une calamité. En tant qu'employeur, lors d'un accident du travail, nous recevons 3 ou 4 fois le même questionnaire par différentes personnes, alors que les mêmes renseignements sont déjà inscrits dans la déclaration initiale. Voilà à quoi elles passent leur temps. Bon, ça râle. Il y a François qui nous dit récemment, les impôts m'ont rajouté 2 prénoms. Après avoir passé des heures à les joindre, c'est à moi de prouver que ces prénoms sont faux.
Oui. Mais ça, faut faire le lien avec Thomas tout à l'heure.
C'est pas mon prénom, prouvez-le.
Voilà. Ça, c'est énorme. Merci en tout cas à tous ceux qui nous ont appelés sur ce dossier. On termine avec le sondage, Rémi. Oui, je pense que ça va être... Ouais,
94% de ceux qui sont prononcés sur les réseaux sociaux sont pour remettre de l'humain dans les services publics.
Allez, dans un instant, le zapping, le meilleur des RMC. Ah tiens, il y a un truc qui va vous plaire. Hier, c'était les vœux de Marlène Schiappa. Elle a fait une petite pause bisous dans ses vœux. Vous allez adorer Daniel Riolo. C'est dans un instant sur RMC. À tout de suite.
RMC, midi 15h. Estelle Midi.
Estelle Denis.
13h30 sur RMC, RMC Story. Vous êtes dans Estelle Midi avec Rémi Barre et Daniel Riolo, Thierry Moreau et Julien Damon. Et tout de suite, c'est le meilleur des RMC, le zapping. C'est parti.
RMC, Estelle Midi.
Le zapping RMC.
On va commencer tout de suite avec un extrait d'Apolline Matin ce matin. L'hôpital public est-il en train d'exploser? 8 médecins de l'hôpital de Dijon se rendent aujourd'hui en avion à Nevers pour pallier le manque de personnel à l'hôpital. Ce pont aérien est inutile, c'est un pansement sur une jambe de bois, nous dit le représentant syndical qui témoignait dans le reportage de Vincent Chevalier ce matin.
Suite à un problème de santé, Brigitte a récemment expérimenté l'hôpital de Nevers.
Je suis arrivée à 14h et j'en suis repartie, il était minuit. Quand vous êtes patient, le moyen de transport compte beaucoup moins parce que il faut trouver une solution pour être pris en charge.
Un avis pas vraiment partagé par David Boucher, infirmier et représentant CFDT à l'hôpital de Nevers.
Ça sent vraiment un pansement sur le jambe de bois, une situation vraiment à court terme.
Pour lui, il faudrait mieux financer l'installation des médecins dans le département, sans parler du coût de l'opération. Plus de 5000 euros l'aller-retour en avion.
C'est dans le déficit qui est actuellement annoncé à 21 millions d'euros que sur l'année 2022, l'hôpital Nevers qui est pris cette prise en charge de ces médecins-là.
Quant à l'impact environnemental, le maire de Nevers prédit un bilan carbone à l'équilibre si chaque semaine, des dizaines de patients ne font pas la route jusqu'à Dijon.
Est-ce que ça vous choque, Julien Damon, qu'on soit obligé d'amener des médecins en fait, par avion à l'hôpital de Dijon?
De Nevers.
De Nevers, pardon.
Oui, ah oui, oui. Non, mais je trouve que c'est complètement aberrant. Enfin, franchement, globalement, nous parlons en permanence de la nécessité de limiter nos déplacements courts en avion. Là, on fait n'importe quoi. Enfin, après ça, on a la possibilité tous de prendre l'avion Paris-Nevers en se disant que c'est la bonne voie pour y aller. Je pense que en voiture ou en train, ce serait nécessairement plus valable. Deuxième chose, c'est plus général.
Il y a des
gens
qui sont en jeu.
Parce qu'il y a vu les images, ils n'avaient pas l'air de courir. Ils étaient devant les caméras, les médecins. Ils n'étaient pas en train de courir dans les ambulances pour aller à l'urgence. Non, mais d'accord. Mais enfin, concrètement, c'est ça. Je pense que on veut faire plaisir aux gens pour que ça aille plus vite, etc. Ils sont mieux payés quand ils vont à l'hôpital ainsi que s'ils y sont installés. Non, non, sans leur jeter à la face des difficultés qui sont plus larges du système. Là, ça me semble être un truc assez étonnant, quoi. Passer par l'avion pour faire Paris-Nevers, je pense que c'est contestable.
Mais parce qu'il y a des urgences vitales.
Mais les urgences vitales. Alors, je répète mon argument. Pourquoi font-ils les malins sur le tarmac et pourquoi ne foncent-ils pas alors à l'opération? Alors,
d'abord,
qui est
le problème,
si
c'est pas l'urgence vitale, c'est parce qu'il y a besoin de médecins.
D'accord.
Et le patron de l'hôpital explique que l'année dernière, le fait d'avoir recours à des contractuels vacataires a coûté 3 millions d'euros sur l'année et que donc il est plus rentable pour lui de faire venir une fois par semaine par avion avec un coût de 5000 euros 8, 5, 6, 7, 8 médecins qui viennent effectivement faire les opérations.
Ils sont pas vacataires,
ça coûte moins cher. Non, parce que ce sont des gens qui sont déplacés d'un hôpital à un autre. Alors qu'avant, les contractuels vacataires coûtaient 3 millions d'euros l'année précédente. C'est une question d'économie. Mais c'est une question, et là où je te rejoins, c'est une réponse à court terme, évidemment, et qu'il y a un malaise beaucoup plus profond sur aujourd'hui pourquoi il n'y a pas assez de médecins à l'hôpital de Nevers.
Et c'est vrai qu'on a quand même l'impression que c'est tout l'hôpital public qui est en train de craquer. Daniel, on nous aurait dit il y a 10 ans, tu sais, on va faire venir des médecins par avion parce qu'il n'y a pas assez de médecins dans tel hôpital. Enfin, on aurait ri, on aurait dit, mais c'est pas possible.
À chaque fois qu'il y a des débats en France et des conflits sociaux, tout se fait dans une sorte de climat révolutionnaire dans ce pays. S'il y a une révolution à faire en France, c'est une réorganisation totale de je sais même plus quel dossier il faudrait prendre de façon prioritaire.
L'hôpital, peut-être.
Entre l'hôpital, l'éducation nationale, Les retraites, ça va presque nous sembler être anecdotique par rapport à tout ce qu'il faut réparer dans ce pays. Au niveau juste de la gestion financière. Parce qu'on sait bien que dans l'hôpital, ça tient beaucoup, d'après ce que disent certains spécialistes, à la façon dont on utilise l'argent. C'est toute la fonction publique, c'est toute l'organisation de nos dépenses publiques qui, à mon sens, enfin c'est l'impression que j'ai, qu'il va falloir revoir. Si on pouvait faire une révolution là-dedans plutôt que à chaque fois qu'il y a une proposition, descendre dans la rue et chercher à bloquer, mais je pense que je suis très naïf là en disant ça.
Très ambitieux en tout cas.
Exactement.
Mais je pense qu'il faut avoir cette ambition hein, pour ce pays, hein. Vraiment.
Deuxième extrait dans ce zapping, extrait des Grandes Gueules ce matin sur RMC. Marlène Schiappa, la secrétaire d'État à la vie associative, a présenté ses vœux hier, mais de manière atypique, en déclenchant par exemple une pause bisou en plein milieu de son discours. Et ça n'a pas manqué de surprendre les convives, parmi lesquels Benoît Hamon ou encore Michel-Édouard Leclerc. Les explications de Cyprien Pézeril.
15 minutes de discours, pas commun, puisqu'au milieu de sa prise de parole, eh bien, elle a déclenché ce qu'elle appelle la pause bisou. Alors la pause bisou façon Marlène Schiappa, qu'est-ce que c'est? Eh bien en fait dans l'assistance, chacun a dû saluer chaleureusement son voisin pour faire connaissance. Dans la salle de réception justement, il y avait des responsables associatifs, des politiques, Benoît Hamon notamment parce qu'il avait occupé ce poste il y a quelques années, mais aussi des personnalités comme Sylvie Tellier, l'ancienne patronne de Miss France, Michel-Édouard Leclerc ou même des influenceuses Instagram. Alors certes, il n'y avait pas de tapis rouge.
Ça dépend, vous pouvez faire un bisou à Sylvie Tellier ou avec Michel-Édouard Leclerc.
Exactement. Enfin, dernier détail, il y avait aussi des écrans un peu comme dans les studios télévision en fait, où il y avait des citations de Marlène Schiappa affichées comme gardez vos nerfs, une phrase qu'elle avait lancée il y a quelques temps à un opposant à l'Assemblée.
Daniel Riolo, vous en pensez quoi? Voilà, il y a quand même plein de Français qui sont dans la rue, il y a de l'inflation, la réforme des retraites, et est-ce qu'il n'y avait pas mieux à faire qu'une pause bisou pendant des jours?
J'espérais que vous ne vous tourniez pas vers moi.
Si, j'avais envie. J'ai senti qu'il fallait que je me tourne vers vous.
Je sais pas, je comprends pas. J'ai l'impression que tu sais, quand on va à la messe et qu'il y a un break pour faire la paix du Christ, tout le monde s'embrasse et se serre la main. Peut-être que tu as voulu faire une. Non, je sais que c'est pas pareil.
Et mangez-en tout.
Je sais pas pourquoi bêtement j'ai pensé à ça. Oui. Mais là, la pause bisou, tout le monde se lève. Non, je sais pas, avec les phrases.
C'est gênant, quoi.
J'ai l'impression qu'on est dans un film où on se moque, où c'est de la caricature, où faut rigoler de la situation.
Quoi. On a surtout.
C'est bien le moment de faire ça, Thierry.
Ça reste très anecdotique, mais c'est surtout le syndrome d'une sorte de course à l'originalité, d'une course à la petite phrase,
à la coulitude,
pour essayer de se faire remarquer.
Il a raison, Thierry. C'est une bonne analyse.
Et en se disant,
vrai,
je suis un ministre
ridicule,
plus moderne.
Je suis
plus dans le coup.
Je fais des trucs un peu.
Voilà.
Parfois, moi, ce que je veux, c'est mieux, un peu cool. Un peu, je suis un peu jeune.
La pause bisou.
Moi, ce que je souhaite. Non, je sais pas s'il a raison. C'est une sorte de course à l'originalité.
Moi, ce que je souhaiterais, c'est que le ministre il soit compétent à son poste. S'il est un peu ringard et qu'il est un peu old school, c'est pas grave. Cette course à la modernité m'agace un petit peu.
Et puis faire des vœux le 25 janvier, pardon, on ne pouvait pas les faire avant.
Oui, c'est très tard. Les vœux des politiques, c'est étalé sur tout le mois de janvier. À la limite, s'il y avait que ça, tu vois, franchement.
Mais déjà, il y a ça. On devrait en finir le 7 janvier, terminé, quoi.
Non, j'en en vois encore, moi.
Genre la prison pour ceux qui disent bonne année le 8.
Et en papier.
Qu'est-ce que t'en penses?
Je suis assez pour.
Allez, on y va.
Bien d'amont.
Eh bien, moi, je trouve ça plutôt bien.
Ah bon? Voilà.
Mais oui, je vais vous dire pourquoi. Parce qu'on s'ennuie aux cérémonies des vœux. C'est des choses qui sont rituelles, qui sont.
Tu vas t'éclater parce que tu la bise à Michel-Édouard Leclerc.
C'est pas le mot. Puis je sais même pas si elle a dû dire bisous en chantant Carlos, etc. Le truc, c'est que à ces moments-là.
Ouais, génial. Je fais la bise à Michel-Édouard Leclerc.
On a des discours convenus. On se regarde les uns les autres. S'il y a eu un moment original, je sais pas si elle leur a dit embrassez-vous, etc. Ouais. C'est ça la chanson de Carlos, ça. Big bisous.
Supprimons-les.
Embrassez-vous.
C'est chiant. Les bisous.
Alors on peut supprimer les vœux.
Ah,
c'était une bonne idée.
Les références sont un peu vieilles quand même.
Que ceci soit un peu original, ça ne me dérange pas. Voilà. Que ceci soit un peu.
Et si on n'a pas envie de faire la bise, moi j'aime pas.
Il fallait faire la bise, il fallait saluer comme à la messe.
Surtout à des gens qu'on connaît pas.
Bah ouais,
vous avez vu combien ça coûte de faire des vœux, il y a quoi ça sert?
Non, ça je suis d'accord. Moi je suis pour supprimer les vœux publics.
Voilà, il y a un certain nombre de mairies qui
l'ont.
On supprime les vœux publics, ou alors si on fait des vœux publics, il faut qu'ils soient moins emmerdants qu'ils le sont habituellement.
Il y en a beaucoup dans certaines mairies, ça leur fait la sortie du mois. C'est l'occasion d'aller picoler un peu et manger un bout de galette.
Mais ça, on n'a rien à faire d'en parler.
Des vœux des uns et des autres.
De ce truc. Moi je pense que c'est un machin qui est un peu préparé. C'est un peu original et tout. Non. Vive Marlène Schiappa.
Supprimons tous les vœux.
Je suis d'accord.
Ah, Estelle, bon. C'est bien, ça fait une petite sortie, il sort un peu quand même.
De toute façon, j'ai pas été invité, donc je prends le verre.
C'est pour ça qu'on critique.
Ah, peut-être.
T'as pas été invité à la mairie près de chez toi pour faire les vœux.
Ou les vœux du patron des RMC, t'as pas eu.
Quelqu'un de ta dimension n'est pas invité.
Qui a pas été.
Les vœux du patron,
c'est
des bisous.
Je les ai ratés. Les grandes gueules ce matin sur RMC. Faut-il en finir avec les devoirs à la maison? Aux États-Unis, l'intelligence artificielle ChatGPT a réussi un examen pour entrer à la fac de droit. Cet outil est de plus en plus utilisé par les élèves, notamment pour effectuer les devoirs maison. Et pour Kevin Bossuet, c'est très clair, il faut arrêter les devoirs à la maison et revoir la manière d'enseigner en France.
Moi, pourquoi je m'en fous, tout simplement? Parce que je pense qu'il faut changer notre manière d'enseigner, ne plus donner des devoirs maison, faire des devoirs sur table, favoriser l'oral pour développer les compétences orales.
Et voilà.
Et puis, on finira avec ça. Il y a même des sites maintenant où il suffit de faire un copier-coller et ça change les mots pour qu'on ne trouve pas, en effet, qu'on a fait un copier-coller.
C'est la fin des devoirs maison.
Moi, ça fait déjà longtemps. L'éducation nationale, c'est interdit.
Thierry Moreau, est-ce qu'il faut tout simplement supprimer les devoirs à la maison? Parce que si maintenant tous les mômes les font avec ChatGPT, ça n'a plus grand intérêt.
Dieu sait si je suis pas souvent d'accord avec Kevin Bossuet, mais là je suis d'accord avec lui. Effectivement, je pense que outre ce qu'il dit, c'est-à-dire que l'oralité, c'est-à-dire ce qu'on fait, travailler en classe, échanger avec les autres est important. Le devoir sur table, c'est aussi un marqueur important parce qu'on est seul devant sa feuille et il faut qu'on fasse du jus de crâne pour travailler. Mais surtout, le devoir à la maison, il y a une vraie inégalité parce que quelqu'un qui sera très accompagné dans ses devoirs à la maison par des parents qui seront éduqués, lettrés, qui auront une bibliothèque, etc. Ce sera pas la même chose que quelqu'un qui se retrouve éventuellement dans une HLM avec cinq frères et sœurs qui parlent à côté. Donc je pense que la vraie discrimination dans le système éducatif, il est sur le devoir à la maison. Ouais. Donc je serais plutôt pour la suppression du devoir à la maison, effectivement.
Vous aussi, Julien Damon, vous qui êtes prof justement.
Ah non, moi je suis favorable au devoir à la maison. Peut-être en diminuant l'intensité parce que on torture les élèves. Puis les étudiants.
La torture, vous y allez un peu fort, non?
Aussi, en comparant à ce qui se passe dans d'autres pays, là, il était évoqué les États-Unis où il n'y a pas de devoir à la maison. C'est vrai qu'on est plus dur avec
nos jeunes. T'as pas du devoir en études aussi,
comme aux États-Unis, là, voilà. Leur devoir en études, c'est les classes inversées, etc., etc. Non, mais par rapport à ChatGPT et compagnie, moi, mon sujet, c'est que oui, il y a des élèves qui trichent. Voilà. Donc, c'est ça qui est dément. On est là en train de dire, ouais, ChatGPT, on peut pas vérifier, ok, on peut pas vérifier. Bah, il faut que les parents regardent que les enfants ne trichent pas. Et puis, il faut que les enfants comprennent. C'est une nouvelle application d'intelligence artificielle qui fait que tu poses une question par exemple, faites-moi une gueulante à la Daniel Riolo, ça te sort le truc immédiatement. Exactement. C'est assez impressionnant. Non, mais je suis sérieux en te disant ça. Mais avec un clin d'œil.
Tu poses n'importe quelle question, ça y répond.
C'est une intelligence artificielle, donc c'est pas juste copier-coller de Wikipédia.
Et chaque
c'est un truc
réponse,
beaucoup plus sophistiqué.
Chaque réponse va être individualisée. C'est-à-dire qu'un prof va dire racontez-moi la vie de Nietzsche, par exemple. Et donc, on va mettre son interrogateur racontez-moi la vie de Nietzsche, il va sortir, ce système d'intelligence artificielle, 20 ou 30 copies différentes. Non, c'est très impressionnant.
Et tu peux dire racontez-moi la vie de Nietzsche à la manière de Baudelaire, par exemple. Tu peux demander.
La manière de Daniel Riolo.
Mais alors, ce qui est assez fort, c'est que maintenant, les mômes, moi je vois mon fils, une fois, il a une mauvaise note, elle avait un devoir à la maison, je lui dis, t'as rien foutu. Il me dit, tu devrais plutôt nous féliciter de ne pas avoir utilisé ChatGPT. Mais qu'est-ce que vous voulez dire?
Mais ça, c'est bien, il est bien, il a raison.
Parce que, mais non, mais enfin, vous n'avez pas bossé. Mais si vous voulez, en fait, maintenant, ça va devenir aussi une excuse. Vous n'avez pas bossé, vous allez dire à vos parents, bah ouais, mais regarde.
Moi, je pense qu'à ce stade-là, puisqu'on est dans le débat sur le travail, on parlait tout à l'heure. Les notes, c'est fini. Les devoirs à la maison, c'est fini. Moi, je pense carrément, on va plus à l'école, on travaille plus. Et puis voilà, quoi.
De toute façon,
c'est l'évolution de la société. De toute façon, c'est à ne plus vouloir rien foutre. Tous les débats, ça tourne autour de ça. Le travail, on n'est pas content. L'école, il faut plus mettre de notes parce qu'il faut pas froisser l'élève. Le devoir à la maison, c'est source d'inégalité. Dans ce pays, il faut plus rien foutre. Faut juste rester à la maison devant Netflix. Mais après, on a plus les sous pour payer l'abonnement, donc il faut mettre Netflix gratos. Et puis voilà. Et puis après, si t'as un problème, si t'as été malade, t'appelles la Sécu, ils te répondent pas. Donc bon, qu'on laisse tout tomber. De toute façon, dans ce pays, on fait que chouiner. C'est un pays de chouineurs.
Daniel, juste imagine. T'as l'un de tes deux enfants, il a un devoir à faire.
Je fais que ça, imagine.
Il le fait grâce à ChatGPT.
Je vais rentrer à la maison, je vais leur demander s'ils font ça. Ils m'arnaquent depuis des semaines, je suis pas au courant.
Depuis des années.
D'ailleurs, je trouvais que les notes étaient un peu meilleures ces derniers temps.
Et ben voilà, ceux qui connaissent ChatGPT, c'est sûr. Mais oui, mais dans ces cas-là, quelle est la valeur du travail à la maison? Autant faire plus de travail en cours.
Exactement.
Ou effectivement,
travailler.
Les membres
ont moins. Mais non, parce qu'en cours, il faut plus bosser pour pas les fatiguer, pour pas les traumatiser. Il faut pas leur mettre des notes. Parce que moi, si le travail à la maison, on le fait plus, mais que c'est remplacé par un petit peu plus de sévérité, moins de laxisme à l'école, je veux bien. Mais comme à l'école, il faut pas les traumatiser, il faut de plus rien. Eh ben, on laisse tout tomber, alors. Mais ça sert à quoi d'aller à l'école? Puisque de toute façon, après, ils vont se plaindre quand ils iront bosser parce que ce sera pas bien.
Non, bon, bah alors, bah voilà, c'est comme
ça.
C'est un
peu
extrême.
Enfin, mais non,
c'est moi qui suis extrême.
Ah, oui.
C'est moi qui suis extrême. Tous les jours, ça chouine en permanence sur tout dans la société qui va mal. Et c'est moi qui suis extrême. Ok, bah c'est moi qui suis extrême.
Mais on essaie de trouver des solutions.
Mais oui, la solution. Mais les solutions, c'est que de la chouine.
Non, la solution, c'est plus de travailler à l'école avec une sévérité.
Mais on ne peut pas travailler à l'école, sinon on les traumatise, Cyril, les enfants. Et on peut pas leur. Mais non, les notes, c'est fini, les notes. T'es pas grand, les notes, c'est fini. Mais faut plus de notes, sinon ils le vivent mal. Et après, il faut aller chez le psy. Tu vas chez le psy, c'est pas remboursé par la sécu.
Je suis pour les profs sévères, respectés, avec des notes.
T'es fou, c'est pas du tout dans l'air du temps ce que tu dis, mon pauvre Thierry.
Bon, synthèse, moi, ma proposition, c'est qu'on empêche les élèves, les étudiants, les jeunes de tricher chez eux et passer par ChatGPT.
Mais comment c'est
tricher? Et par exemple, ils ont pas d'ordinateur. Pourquoi c'est bisounours?
Après, il y a la fracture numérique, c'est pas d'ordinateur.
Je suis pas du tout. Bah, tu dis, par exemple, aux élèves de rendre ça sur du papier.
Bah, ils vont recopier sur du papier. Ils
└                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ___
Sur du papier, ils vont écrire avec le stylo, ça va être pénible. Il y a des logiciels
d'intelligence artificielle qui vont pouvoir repérer que c'est passé par de l'intelligence artificielle. De la même manière que depuis des années.
On est resté derrière mon fils de 15 ans pendant 2 heures pour me dire ça.
Il faut tous qu'on ait un Anthony Morel à domicile.
C'est pas Anthony Morel. Il y a déjà plein d'applications. Par exemple, à Sciences Po, il est tout à fait possible pour un prof de savoir si un étudiant a pompé ou non, parce que il nous envoie sur notre adresse électronique une copie et on regarde si ça a été pompé. Voilà. Pas avec ChatGPT pour le moment, mais on trouvera bien une manière de mettre fin à ça. Et plus généralement, que les parents vis-à-vis des jeunes les contrôlent un peu et qu'ils soient pas sur leurs ordinateurs.
On va pas passer notre temps derrière nos enfants.
C'est pas passer notre temps, mais un peu de temps. Non, c'est pas les bisounours. Comme on ne passe pas, on les laisse faire ce qu'ils veulent.
Bien sûr, quand ils ont 20 ans, on va passer notre temps derrière.
20 ans, on n'a rien à foutre. Moi, je parle de ceux qui ont de 5 à 15 ans. Voilà, de 5 à 15 ans, il faut pas.
5 ans, non, ils n'ont pas ChatGPT. Bon, bref. Bon, dans un instant, Stéphane Pedrazzi, là, c'est du vrai, c'est du réel, pas du virtuel. La minute conso, on parlera de ces 40 000 Français qui ont changé de nom ces 6 derniers mois. Comment ça se passe et pourquoi ont-ils changé de nom? À tout de suite sur RMC.
RMC, midi 15h, Estelle Midi,
Estelle Denis.
13h50 sur RMC, RMC Story, vous êtes dans Estelle Midi, on parle conso avec Stéphane Pedrazzi, c'est parti.
RMC, Estelle Midi,
la minute conso.
Et aujourd'hui, on va consommer des noms, Stéphane, tout simplement parce que 40 000 personnes ont changé de nom en France depuis l'été dernier.
Ouais, c'est un véritable raz-de-marée. Depuis, en fait, que la loi a été assouplie en juillet 2022, avant cette réforme, il y avait environ 3 000 personnes qui changeaient de nom tous les ans en France. Désormais, c'est 30 fois plus. On est à 8 000 demandes tous les mois. Alors attention, ça ne concerne que les noms dans le cadre de la filiation, c'est-à-dire choisir entre le nom du père, de la mère ou prendre les deux. Je vous rappelle qu'il n'y a pas si longtemps, c'était systématiquement le nom du père qui était imposé à l'enfant. Maintenant, on peut en changer a posteriori et très facilement. Vous pouvez juste aller à la mairie de votre domicile, à l'état civil, sans justifier quoi que ce soit. Vous avez ensuite un délai de 30 jours pour être sûr de votre choix. Vous devez le confirmer parce qu'on ne peut changer de nom qu'une seule fois dans la vie. On ne va pas s'amuser en changer toutes les semaines.
Excusez-moi Stéphane, mais quel est le rapport avec la consommation et l'économie?
Alors en fait, le nom de famille peut avoir un impact très important sur ta situation économique. Une étude réalisée en 2012 avait montré qu'un nom de famille à consonance étrangère avait 40% de chances de moins d'être recruté pour un poste par rapport à une personne qui a un nom à consonance française. Alors évidemment, c'est interdit par la loi, c'est de la discrimination. Mais en pratique, l'enquête avait montré que les recruteurs avaient un véritable biais par rapport à ça et choisissaient en priorité les candidats qui avaient un nom à consonance française. Donc si vous souhaitez, d'une manière générale, éviter les discriminations, vous pouvez très bien inverser le nom du père et de la mère, mettre le nom
sauf
à...
Sauf s'ils sont étrangers tous les deux.
Dans ce cas, effectivement. Ouais, après, c'est aussi...
C'est aller dans le sens de la discrimination.
Exactement. Bah oui. Après, c'est fuir la discrimination et ce n'est pas une solution. Ah oui. Et je suis entièrement d'accord. Mais d'une manière générale, on peut avoir envie de choisir le nom qui est le plus joli, s'il y a un nom à particules, s'il y a un nom un peu plus rare. Si tu t'appelles Martin quelque chose, c'est vrai que Martin, c'est courant, tu peux avoir envie de le mettre en deuxième position. Et puis par rapport à ta carrière, si tu t'appelles, je sais pas, Josiane Boudin et que tu veux faire une carrière dans le cinéma, ça risque quand même de t'attirer quelques colibets, effectivement.
Arrêtez, j'ai un boucher qui s'appelle Chipot. Mais je vous jure, c'est vrai.
Et ben voilà, ben là, c'est le
voilà. Et ben ça lui va bien.
Bah oui, ça lui va bien. Mais non, mais en plus, il fait des très bonnes chipolatas, donc c'est formidable. Mais voilà, mais donc il y a aussi des noms qui sont en rapport avec les métiers. Bon, est-ce qu'on peut aussi changer un nom? Allez, on va dire, bah, oui, ridicule ou plus difficile à porter.
Josiane Boudin,
bah,
par exemple.
Oui, bah, oui.
Alors là, c'est une procédure. Oui, enfin, on
moi,
peut
je m'excuse
changer.
Par rapport à toutes les Josiane Boudin qui nous écoutent. Oui. C'est pas ridicule. C'est plus dur à porter.
Mais un peu quand même.
Si elle Josiane Boudin, est-ce qu'elle peut nous appeler au 3216?
Oui, elle peut.
Faire un cadeau.
Alors effectivement. On peut changer de nom si c'est ridicule. C'est une procédure un peu plus complexe. Elle n'a pas été assouplie. En revanche, elle est moins chère depuis le début de l'année. Surtout, il faut une justification, il faut un motif légitime. Donc, ça peut être effectivement un nom qui est difficile à porter parce qu'il est ridicule, péjoratif, Monsieur Connard, Madame Nichon, enfin, etc. Ça peut être un nom qui a une mauvaise réputation.
Monsieur Connard, il y en a vraiment beaucoup.
Il y en a.
Moi, j'en ai connu.
Madame
quoi?
Madame Nichon aussi.
Non, moi, la femme du boucher quand j'étais petit, c'est Madame Bonichon.
Ah bon?
Par exemple.
Elle n'a pas changé. Elle
s'en rappelle bien. Qu'est-ce que tu veux dire? Elle n'a pas changé.
Je m'en rappelle.
Oui, ben, je...
Forcément.
Elle a épousé monsieur.
Monsieur Connard.
Je crois que j'étais trop petit pour savoir si c'était justifié.
Ouais, continue.
Donc je ne rigolais que sur le nom.
À porter, tu peux en changer. C'est un nom, ça peut être un nom aussi qui a une mauvaise réputation. Si tu t'appelles Hitler ou Pétain, forcément, ou tu as le nom d'un pédophile qui est à la une des journaux, ça peut être gênant et tu peux avoir envie de changer de nom. Si tu coupes les ponts avec ta famille, imagine, il s'est passé quelque chose d'horrible, un meurtre au sein de ta famille, etc. Tu as aussi le droit de demander un changement de nom ou tout simplement parce que l'association du prénom et du nom est ridicule. Vous connaissez le jeu des monsieur madame?
Ah, j'adore.
Monsieur madame Tombal ont un fils, comment on l'appelle? Pierre Tombal, voilà.
Ouais, enfin, personne n'appellerait son fils Pierre si tu t'appelles Tombal.
Alors maintenant, l'état civil vérifie quand tu vas enregistrer un enfant que l'association des deux ne soit pas ridicule. La procédure n'est pas gratuite, il faut faire une déclaration au journal officiel. Avant, ça vous coûtait 110 euros depuis le début de l'année, ça, vous n'avez plus à le payer. Mais il faut faire une annonce légale dans un journal du département. C'est payant entre 18 et 20 centimes, ça peut rapidement faire une centaine d'euros. Et dans certains cas, vous pouvez avoir besoin d'un avocat. Là aussi, ça peut rapidement chiffrer vite.
Est-ce qu'on peut changer de prénom aussi?
Oui, alors c'est moins lourd que le changement de nom de famille. Si vos proches ont pris l'habitude de vous appeler par un autre prénom, un diminutif, quelque chose qui vous identifie, il suffit d'apporter la preuve. Oui, si on t'appelle Kiki, tu vas pas demander à ce qu'on t'appelle Kiki à l'état civil. Si tu as plusieurs prénoms, tu peux en faire changer l'ordre. Si tu n'aimes pas le premier, tu peux très bien prendre le deuxième, le troisième, etc. Et tu peux aussi le faire franciser pour les personnes qui se font naturaliser. Parfois, un prénom chinois, c'est pas facile à prononcer. Donc, il y a une version française. Sachez que le prénom, là encore, c'est un marqueur social et qui peut contribuer à ta réussite financière. Une étude avait été menée par un sociologue en 2016 et avait calculé la corrélation entre les prénoms et les mentions très bien au bac. Figurez-vous que sur les 9 premières mentions très bien au bac, il n'y a que des filles. Diane, Esther, Joséphine, Alice, Jeanne, Aude, Victoire, Zoé et Elsa, n'est-ce pas? Donc, mention très bien, sinon...
C'est ce qu'elle a eu.
Et ceux qui ont obtenu le moins de mentions, alors désolé pour ces personnes, Brian, Dylan, Anissa, Anthony, Jennifer, Jordan, Mehdi, Morgan... et Ryan, et comme il y a une corrélation
souvent dans les prénoms, il y a quelque chose de profondément social.
Exactement, classiste, et là, on peut avoir envie, à l'âge adulte, de changer son prénom parce qu'il a il est marqué, connoté de manière négative. Une autre étude très vite américaine avait également affirmé qu'un prénom trop long pouvait nuire à votre réussite professionnelle. Avoir un prénom à 5 lettres, ça assure en moyenne une meilleure rémunération que les autres. Et chaque lettre supplémentaire, toi il y en a 6, te fait perdre 3 600 $ de salaire annuel.
Voilà. Je vais enlever le dernier L. Je vais faire Estelle qui termine par L.
Estelle avec accent grave et E, mais là tu vas te retrouver quand même.
Je vais me faire appeler Dany.
Moi je prends Jules.
4 lettres, je demande une augmentation directe.
Ah mais moi aussi je comptais y aller. J'y vais avant toi.
Estelle, t'es cuit.
Dany
Rigaud. Non, Estelle, j'enlève le LE et ça fait Estelle avec juste un L.
Ah ça va, c'est
bien. La conclusion, c'est que le mieux payé ici, c'est Rémi.
C'est vrai.
Alors c'est 4 lettres. T'as dit 5.
Oui, mais 5, mais c'est...
Moi, il y a de l'aide, mieux c'est.
Ouais, exactement.
Je vais changer de prénom.
C'est moins bien payé.
Oui.
Et c'est moins le moins bien payé.
Ça, c'est vrai.
C'est vrai.
Mais c'est vrai aussi. Dans un instant, merci beaucoup Stéphane Pedrazzi. Dans un instant, plus d'un salarié sur 3 en France serait prêt à diminuer son salaire en échange de la semaine de 4 jours. Êtes-vous prêt à travailler moins pour gagner moins?
Non.
À tout de suite sur RMC.
RMC, midi 15h.
Estelle Midi.